Cinq lettres sur le culte et le ministère par l'esprit. Auteur, William Trotter. Le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Première lettre, Dieu présent dans l'assemblée. Bien-aimés frères, il y a plusieurs points relatifs à notre position, en tant que rassemblés au nom de Jésus, sur lesquels je sens le besoin de m'entretenir avec vous. Je choisis ce moyen de le faire, comme vous offrant plus de facilité pour examiner et peser mûrement ce qui vous sera communiqué, que vous n'en auriez probablement dans un entretien ou une discussion libre, à laquelle tous assisteraient. Je serais très reconnaissant qu'une telle discussion pût avoir lieu, si le Seigneur y inclinait vos cœurs, quand vous aurez examiné et pesé, en sa présence, les choses que j'ai à vous soumettre. Un mot, en commençant, pour reconnaître la miséricorde de Dieu envers nous, comme assemblés au nom de Jésus. Je ne puis que courber la tête et adorer, en me rappelant les nombreux moments de réel rafraîchissement et de joie sincère qu'il nous a donné de passer ensemble en sa présence. Le souvenir de ces moments, tout en remplissant le cœur d'adoration devant Dieu, nous rend indiciblement chers ceux avec lesquels nous avons joui de telles bénédictions. Le lien de l'Esprit est un lien réel. Et c'est dans la confiance qu'il m'inspire en l'amour de mes frères, que je voudrais, comme votre frère et votre serviteur pour l'amour de Christ, vous exprimer sans réserve ce qui me paraît être d'une grande importance pour la continuation de notre bonheur et de notre avantage commun, aussi bien que pour ce qui est beaucoup plus précieux encore. La gloire de celui au nom duquel nous sommes assemblés. Lorsque, en juillet dernier, nous fûmes conduits par le Seigneur, comme je n'en doute pas, à substituer des réunions libres, le dimanche soir, à la prédication de l'Évangile, qui avait eu lieu jusqu'alors, je prévoyais tout ce qui s'en est suivi. Je puis dire que le résultat ne m'a point du tout surpris. Il y a des leçons relatives à la direction pratique du Saint-Esprit qui ne peuvent être apprises que par l'expérience. Et bien des choses, qui peuvent maintenant, par la bénédiction du Seigneur, être appréciées par votre entendement spirituel et par vos consciences, auraient été alors complètement inintelligibles. Si vous n'eussiez appris à connaître le genre de réunion auquel ces vérités s'appliquent. On dit que l'expérience est le meilleur des maîtres. Cela pourrait souvent être justement mis en doute. Mais on ne saurait douter que l'expérience ne nous fasse sentir des besoins que l'enseignement divin peut seul faire naître. Vous me croirez, quand je vous dirai que le fait de voir mes frères mutuellement mécontents de la part qu'ils prennent les uns et les autres dans les assemblées, n'est pas pour moi un sujet de joie. Mais si cet état de choses contribuait, comme j'ai la confiance qu'il le fera, à ouvrir tous nos cœurs aux leçons de la parole de Dieu, qu'autrement nous n'aurions pu apprendre aussi bien. Ce résultat serait au moins un sujet de reconnaissance et de joie. La doctrine de l'habitation du Saint-Esprit dans le corps, l'Église, et conséquemment, de sa présence et de sa suprématie dans les assemblées des saints, m'apparaît depuis bien des années. Sinon comme la grande vérité de la dispensation actuelle, du moins comme une des plus importantes vérités qui distinguent cette dispensation. La négation virtuelle ou réelle de cette vérité constitue un des traits les plus sérieux de l'apostasie qui s'est fait jour. Ce sentiment ne diminue pas chez moi, mais s'approfondit plutôt à mesure que le temps s'écoule. Je vous confesse ouvertement que, tout en reconnaissant pleinement qu'il y a des enfants bien-aimés de Dieu dans toutes les dénominations qui nous entourent, et tout en désirant tenir mon cœur ouvert à tous, il ne me serait plus possible d'être en communion avec un corps quelconque de chrétiens professants, qui substituerait des formes cléricales quelconques à la souveraine direction du Saint-Esprit. pas plus que, si je s'étais israélite. Je n'aurais pu avoir communion avec l'érection d'un veau d'or à la place du Dieu vivant. Que cela ait eu lieu, et même dans toute la chrétienté, et que, à cause de ce péché et de tant d'autres, le jugement soit suspendu sur la chrétienté, c'est ce que nous ne pouvons que reconnaître avec douleur, en nous en humiliant devant Dieu. Comme y ayant tous participé, et comme étant un seul corps en Christ avec un grand nombre de chrétiens qui, aujourd'hui encore, demeurent dans cet état de choses et s'en glorifient. Mais les difficultés qui accompagnent la séparation d'avec ce mal, difficultés que nous aurions certes dû prévoir et que nous commençons tous à éprouver, n'ont pas le pouvoir d'affaiblir mes convictions relativement à ce mal dont Dieu, dans sa grâce, nous a fait sortir. Et elle n'éveille en moi aucun désir de retourner à cette espèce de position et d'autorité humaine et officielle. Position et autorité que s'arroge une certaine classe de personnes, ce qui caractérise le monde professant, et contribue à hâter le jugement qui tombera bientôt sur lui. Mais, bien-aimés frères, si notre conviction de la vérité et de l'importance de la doctrine de la présence du Saint-Esprit ne saurait être trop profonde, permettez-moi de vous rappeler que cette présence du Saint-Esprit dans les assemblées des saints est elle-même un fait. C'est d'une simple foi en cela que nous avons besoin. Nous sommes enclins à l'oublier. Et l'oubli ou l'ignorance de ce fait est la cause principale de ce que nous nous assemblons sans en retirer aucun profit pour nos âmes. Si seulement nous nous assemblions pour être en la présence de Dieu. Si seulement, lorsque nous sommes réunis ensemble, nous croyions que Dieu est réellement présent, quel effet cette conviction devrait avoir sur nos âmes? Le fait est que, aussi réellement que Christ était présent avec ses disciples sur la terre, aussi réellement le Saint-Esprit est maintenant présent dans les assemblées des saints. Si sa présence pouvait, de quelque manière, être manifestée à nos sens, si nous pouvions le voir comme les disciples voyaient Jésus, quel sentiment solennel nous éprouverions, et comme nos cœurs en seraient dominés. Quel calme profond, quelle attention respectueuse, quelle solennelle confiance en lui, en résulterait. Comme il serait impossible qu'il y eût aucune précipitation, aucun sentiment de rivalité, d'agitation, si la présence du Saint-Esprit était ainsi révélée à notre vue et à nos sens. Et le fait de sa présence aurait-il moins d'influence, parce que c'est une affaire de foi et non de vue? Est-il moins réellement présent, parce qu'il est invisible? C'est le pauvre monde qui ne le reçoit point, parce qu'il ne le voit point. Prendrons-nous donc la place du monde et abandonnerons-nous la nôtre? Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. Jean chapitre 14 versets 16 et 17. Mais vous le connaissez. Il serait bien à désirer qu'il en fût ainsi, mais bien aimé. Je suis de plus en plus persuadé que la grande chose qui nous manque, c'est la foi en sa présence personnelle. N'y a-t-il pas eu des temps, où sa présence était réalisée au milieu de nous comme un fait? Et combien de tels moments étaient bénis? Il pouvait y avoir, et il y avait des intervalles de silence. Mais comment était-il employé? À s'attendre sérieusement à Dieu. Non dans une inquiète agitation, de savoir qui prierait ou qui parlerait. Non en tournant les feuilles des Bibles ou des livres de cantiques, pour trouver quelque chose qu'il nous parut convenable de lire ou de chanter. Non, ni dans des pensées anxieuses au sujet de ce que penseraient de ce silence ceux qui étaient là comme assistants. Dieu était là. Chaque cœur était occupé de lui. Et si quelqu'un avait ouvert la bouche uniquement pour rompre le silence, on aurait senti que c'était là une interruption réelle. Quand le silence était rompu, c'était par une prière qui renfermait les désirs et exprimait les aspirations de tous les assistants. Ou par un cantique auquel chacun pouvait s'unir de toute son âme. Ou par une parole qui s'adressait avec puissance à nos cœurs. Et quoique plusieurs personnes puissent être employées pour indiquer ces hymnes, prononcer ces prières ou ces paroles, il était si évident qu'un seul et même esprit les dirigeait dans tout ce service. Que c'était comme si le programme en avait été déterminé d'avance, et que chacun y eut sa part assignée. Aucune sagesse humaine n'aurait pu faire un tel plan. L'harmonie était divine. C'était le Saint-Esprit qui agissait par les différents membres, dans leurs diverses places, pour exprimer l'adoration, ou pour répondre aux besoins de tous ceux qui étaient présents. Et pourquoi n'en serait-il pas toujours ainsi? Je le répète, bien-aimés frères, la présence du Saint-Esprit est un fait, et non pas une pure doctrine. Et assurément, si, de fait, il est présent avec nous quand nous sommes réunis ensemble, aucun fait ne peut être d'une importance comparable à celui-là. C'est certainement le grand fait, celui qui absorbe tous les autres, le fait qui devrait caractériser tout le reste dans l'assemblée. Il ne s'agit pas seulement ici d'une négation. La présence du Saint-Esprit ne signifie pas seulement que l'assemblée ne doit pas être conduite d'après un ordre humain et fixé d'avance. Elle signifie plus que cela. Si le Saint-Esprit est présent, il faut qu'il dirige l'assemblée. Sa présence ne veut pas dire non plus que chacun a la liberté d'y prendre part. Non, elle signifie l'opposé de cela. Il est vrai qu'il ne doit y avoir aucune restriction humaine. Mais si l'Esprit de Dieu est présent, nul ne doit prendre une part quelconque au culte, excepté celle que l'Esprit lui a signée pour laquelle il le qualifie. La liberté du ministère, c'est la liberté que le Saint-Esprit a d'agir par qui il veut. Mais nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Et si l'usurpation de sa place par un seul individu est une chose intolérable, que dira-t-on de l'usurpation de sa place par un certain nombre d'individus, agissant parce qu'il y a liberté d'agir? Et non parce qu'ils savent qu'ils ne font que se conformer à la volonté du Saint-Esprit en agissant comme ils le font? Une foi réelle en la présence du Saint-Esprit mettrait ordre à toutes ces choses. Ce n'est pas que l'on doive désirer le silence pour soi, ou que quelqu'un doive s'abstenir d'agir uniquement à cause de la présence de tel ou tel frère. J'aimerais tout autant qu'il y eût toutes sortes de désordres, afin que l'état réel des choses se manifestât, que de le sentir contenu par la présence d'un individu. Ce qui est à désirer, c'est que la présence du Saint-Esprit soit réalisée de telle sorte, que personne ne rompe le silence que par sa puissance et sous sa direction. Et que le sentiment de sa présence nous garde ainsi de tout ce qui est indigne de lui et du nom de Jésus qui nous rassemble. Sous une autre dispensation, nous lisons l'exhortation suivante. Prends garde à ton pied, quand tu vas dans la maison de Dieu, et approche-toi pour entendre, plutôt que pour donner le sacrifice des sceaux, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse point de ta bouche, et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre. C'est pourquoi, que tes paroles soient peu nombreuses. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 et 2. Certes, si la grâce dans laquelle nous sommes, nous a donné un plus libre accès auprès de Dieu, nous ne devons pas user de cette liberté, comme d'une excuse pour le manque de respect et pour la précipitation. La présence réelle de Dieu le Saint-Esprit au milieu de nous devrait certainement être un motif plus pressant encore à une sainte révérence et à une pieuse crainte, que la considération que Dieu est au ciel et nous sur la terre. C'est pourquoi, Recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant, Hébreux chapitre 12 versets 28 et 29. Espérant reprendre ce sujet, je suis, cher frère, votre indigne serviteur en Christ. Appendice à la première lettre. Quelque importante que soit la doctrine de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans l'Église, il ne faudrait pourtant pas la confondre avec celle de la présence personnelle du Seigneur Jésus dans l'assemblée des deux ou trois réunis en son nom. Quelques-uns ont pensé que le Seigneur était présent dans l'assemblée par son Esprit, ne distinguant pas entre la présence personnelle du Seigneur et celle du Saint-Esprit. Celui-ci administre et dirige. Il n'est pas souverain. C'est le Seigneur qui est souverain. Le Seigneur dit du Consolateur, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de par lui-même. Il me glorifiera. Il prendra du mien et vous l'annoncera, etc. Jean chapitre 16 versets 13 et 14. Mais le Seigneur promet de se trouver lui-même là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Il est au milieu de ceux pour lesquels lui s'est donné lui-même, tandis que le Saint-Esprit a été donné, et ne s'est pas donné lui-même. Il est de toute importance de retenir la vérité de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans l'Assemblée. Ce fait a été perdu de vue par l'Église, et c'est ce qui a été sa ruine. Elle a substitué le clergé à la présence et à l'action du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas cependant que l'attachement à cette vérité tendit à faire méconnaître la présence personnelle et effective du Seigneur Jésus au milieu de l'Assemblée. En Matthieu chapitre 18 verset 20, le Seigneur ne dit pas « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, l'Esprit est là au milieu d'eux, quelque vrai et béni que cela soit, mais, je suis là au milieu d'eux. » C'est une grande perte pour l'âme et pour l'Assemblée, si la présence personnelle du Seigneur, comme Seigneur, est remplacée par celle du Saint-Esprit, qui n'est pas Seigneur, mais Paraclet, qui administre et dirige. En Éphésiens chapitre 4 verset 4 à 6, nous avons, au verset 4, l'unité vitale. Au verset 5, l'unité de profession. Au verset 6, l'unité extérieure et universelle. La première, en rapport avec le seul Esprit. La seconde, avec le seul Seigneur. La troisième, avec le seul Dieu. La première unité comprend tous ceux qui ont la vie. La seconde, tous ceux qui professent le nom de Christ. Ceux donc qui ont la vie s'y trouvent en première ligne. Mais cette seconde sphère peut embrasser ce qui n'est pas vital. La troisième unité, verset 6, comprend universellement tous les hommes, mais les enfants de Dieu y sont au premier rang. Dieu est leur Père, et il est en eux, tout en étant extérieurement au-dessus de tout et partout. Nous disons que la seconde unité, verset 5, est en rapport avec le seul Seigneur. Il a autorité sur tous ceux qui se réclament de son nom, qu'ils aient la vie ou qu'ils n'aient que la profession. Tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. En 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 6, nous trouvons les trois mêmes choses, l'Esprit, le Seigneur, et Dieu. Il y a diversité de dons, il y a par conséquent diversité de services, et le même Seigneur. Les serviteurs ont reçu de l'Esprit la distribution de leurs dons, verset 11, et ils accomplissent leur service sous la direction de l'Esprit. Mais comme serviteurs ils sont sous l'autorité de leur Seigneur, qui n'est pas l'Esprit, mais qui est Jésus. L'esprit distribué dirige les services, mais les serviteurs sont serviteurs du Seigneur. De même, s'il s'agit de la scène, elle est la scène du Seigneur. C'est la mort du Seigneur qui est annoncée, c'est la coupe du Seigneur, c'est la table du Seigneur, en contraste avec celle des démons. C'est donc lui qui a l'autorité là, pour déterminer qui sont ceux qui doivent y prendre part, 1 Corinthiens chapitre 11. Remarquons toutefois, que c'est par l'Esprit Saint seulement, que l'on peut dire, Seigneur Jésus, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Mais sans le vouloir, on peut méconnaître l'autorité du Seigneur dans l'assemblée, et y substituer celle du Saint-Esprit qui n'est pas Seigneur, mais qui administre de la part de celui qui est Seigneur. L'Église du Moyen-Âge était tombée dans un autre extrême, en substituant l'administration de l'homme à celle du Saint-Esprit. Il est bien de remarquer qu'en Matthieu chapitre 18 verset 18 à 20, le Seigneur ne parle pas de l'Esprit. Il s'agit de son autorité à lui le Seigneur, de son nom, et de sa présence personnelle. Sans doute, tout cela est réalisé sous la direction du Saint-Esprit, mais l'on n'est pas réuni au nom du Saint-Esprit ni autour de lui. Si l'on ne pense qu'à la présence du Saint-Esprit, on perd la vérité de la présence personnelle du Seigneur dans l'assemblée, et l'on est obligé de faire Seigneur le Saint-Esprit. Mais par contre, on ne peut posséder la vérité de la présence personnelle du Seigneur comme souverain, sans avoir celle de la présence et de l'action de l'Esprit comme celui qui administre de la part du Seigneur qui est souverain. Et alors on a tout ce qu'il faut. Une autre remarque, qui fait ressortir ce qui distingue la présence du Saint-Esprit, de la présence personnelle du Seigneur dans l'assemblée des deux ou trois réunis en son nom. C'est que le Saint-Esprit peut se trouver, attristé hélas, là où le Seigneur ne peut se trouver. Dans une assemblée sectaire, les saints qui la composent ont cependant le Saint-Esprit en eux et avec eux. Ils peuvent l'ignorer, ne penser qu'à son influence, et lui y est attristé, mais de fait, il ne les laisse pas. Il ne s'en va pas. Il demeure avec vous, et sera en vous. Jean chapitre 14 verset 17. Mais le Seigneur Jésus, lui, ne peut se trouver présent dans une assemblée sectaire. Il ne s'agit pas en Matthieu chapitre 18 verset 20, de sa toute présence, car dans ce sens-là il est partout indistinctement, mais s'il s'agit d'assemblées religieuses, le Seigneur n'a pas promis d'être dans toutes, mais exclusivement là où son nom est le centre et la base du rassemblement. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, j'y suis. Et s'il est là, c'est lui qui a l'autorité, et l'Esprit l'administration. Oh, si nous avions le sentiment intime que le Seigneur est là comme Seigneur, que nous sommes là chez lui, quelle influence solennelle cela exercerait sur nos cœurs, et en même temps quelle sécurité et quel repos. Combien alors le Saint-Esprit serait libre de nous administrer les bénédictions de Christ, prenant de ce qui est au Seigneur pour nous l'annoncer. Quel immense privilège d'être rassemblé par le nom glorieux de celui qui est venu, de celui qui est mort, de celui qui est ressuscité, de celui qui est glorifié à la droite de Dieu, de celui qui nous a envoyé le Consolateur, de celui qui de là vient nous chercher. Oui, c'est ce nom glorieux qui est la base du rassemblement dont il dit, « Je suis là au milieu d'eux ». Ce Seigneur, corporellement absent, se trouve spirituellement présent d'une manière positive, et non seulement par son esprit, au milieu de ceux que son nom a réunis. Il est là et pas ailleurs, s'il s'agit d'assemblée, et quelle sécurité que là il soit Seigneur.